à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.
Salam alaikum, chers auditeurs. Vos questions sur Jésus sont importantes, notamment l'une d'elles que je cite. Comment Jésus forme-t-il ses disciples? Essayons ici de répondre. Jésus avait un grand projet et il lui fallait préparer son personnel avec les critères et les valeurs adéquates. Pour faire de chacun d'eux qui le suivait un authentique disciple, il mit sur pied un programme de formation qui délimitait avec soin les différentes étapes que ses collaborateurs devaient franchir pour poursuivre et étendre son œuvre dans le monde. Le processus que Jésus prévoit pour former ses premiers amis est le même qu'il continue d'employer aujourd'hui pour modeler tous ses disciples. De même que le chandelier du temple de Jérusalem avait 7 branches, de même les lumières qui illuminent cet itinéraire sont au nombre de 7. Nous les trouvons exposées dans ce que je pourrais appeler le testament pastoral du Maître. Premièrement, il prit le pain dans ses mains. Deuxièmement, il le bénit. Troisièmement, il le rompit. Quatrièmement, il le donna. Cinquièmement, il leur dit « Ceci est mon corps ». Sixièmement, « Mangez-en tous ». Septièmement, « Faites ceci en mémoire de moi ». Regardons la première étape. Il prit le pain dans ses mains. Comme dans la dernière scène où il prit le pain dans ses mains, Jésus nous prend sous sa responsabilité. Nous sommes le pain entre les mains du Maître. Nous ne l'avons pas choisi, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Jean 4, 10, Jean 15, 16. Ce n'est pas nous non plus qui avons décidé de travailler à sa vigne. C'est lui qui a posé son regard sur nous alors qu'il cherchait des ouvriers. En nous choisissant, le Seigneur nous prend dans ses mains pour nous former à son image et à sa ressemblance. C'est à ses côtés que se modèlent les disciples. Le centre de formation n'est pas une classe académique ni un terrain d'essai, mais les mains du Maître. Je cite « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. » Jérémie 18, 6. Dans le récit de la Genèse, nous voyons que Dieu a pris de l'argile dans ses mains et a commencé à modeler l'homme. L'homme nouveau n'est que le produit de l'artisan divin, qui précise les traits qui définissent les siens. Pour comprendre ce que signifie cette image, nous devons bien comprendre ce qu'est l'argile. L'argile est un élément composé de terre et d'eau. Néanmoins, les deux éléments doivent être parfaitement combinés, car s'il y a trop d'eau, cela devient de la boue sans consistance et inutilisable. Si au contraire il manque de l'eau, la terre se durcit tant qu'on ne peut même plus la modeler. L'être humain, fait d'argile, est composé de l'eau, de ses qualités et de la terre et de ses carences. Dans l'eau, on voit sa fécondité et ses énormes possibilités. Dans la terre apparaissent ses limites et ses nécessités. Nous ne sommes pas que qualité ou vertu, pas plus que défaut et limite. Les deux éléments forment un binôme parfait qu'on ne peut séparer sans déchirer l'essence de l'être humain. Dieu prend en compte ces deux éléments et les travaille toujours ensemble. Nos qualités et nos limites sont la matière première avec laquelle il fait un vase neuf. Tout entre dans son plan. Ce ne sont pas nos qualités qui instaurent le royaume de Dieu, ni nos limites qui peuvent empêcher sa réalisation. Nos vertus sont bien insuffisantes et nous le voyons clairement en Moïse, je le cite. On aurait pu trouver beaucoup mieux que le fils ou la fille de Pharaon, qui, par sa culture et sa préparation, put sortir d'Égypte le peuple opprimé. Néanmoins, il lui fallut d'abord renoncer à ses qualités et fuir vers le désert de Madian, quitter la maison de Pharaon avec tous ses privilèges. Et alors seulement, il put être l'instrument utile dont Dieu se servit pour la libération de son peuple. C'est grâce à cette rude expérience de dépouillement que Moïse comprit clairement que l'œuvre était de Dieu et non d'un homme quelconque. Ainsi, quand après l'apostasie du Sinaï, Dieu lui dit « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. » Moïse lui répondit clairement « Ce peuple n'est pas à moi, et ce n'est pas moi qui l'ai libéré, c'est toi qui l'as tiré de l'esclavage. » Exode 32, 7, 11. Par ailleurs, nos faiblesses ne sont pas une excuse, ni nos limites une raison suffisante pour que Dieu interrompe son plan. Notre faiblesse ne sera jamais plus grande que sa puissance. Dieu ne dépend en rien de nous, et encore moins de nos défauts. Moïse, en même temps, en est un exemple. Je cite « Quand il fut appelé pour libérer les Hébreux de l'esclavage, il s'écria « Mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Je ne sais pas parler et je suis bègue. » Dieu lui répondit « Je serai avec toi et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Exode 3, 11, 12. L'incapacité humaine n'est pas un obstacle suffisant pour que Dieu interrompe son action salvifique. Quand dans notre vie, nous avons de l'eau en surabondance, c'est-à-dire que nous nous confions trop en nos qualités, croyant que nous sommes capables de remplir la mission commandée, alors le Seigneur se charge de nous rajouter un peu de terre pour que nous soyons bien de l'argile et non de la boue. Si, au contraire, nous ne regardons que la terre de notre péché et la poussière de notre incapacité, alors le Seigneur nous donne un peu d'eau vive pour nous assouplir et pour pouvoir se servir de nous, libres de tout complexe d'infériorité ou de culpabilité. L'essentiel de cette première étape est qu'avant que nous travaillions pour le Seigneur, lui, nous travaille. Je repense à ma venue au Liban, puis en ermitage, à Toula Batroun. Comparant ma situation avec ce que je pouvais faire à Paris, avec tous mes amis, je criais vers le Seigneur, « Je crois que je me trompe en me trouvant au Liban, en plus à Toula Batroun. Je ne parle pas l'arabe, les gens ne comprennent rien à ma vie d'ermite, je suis l'étrangère. Seigneur, je veux rentrer à Paris pour mieux te servir. » Alors, j'entendis clairement la voix du Seigneur, qui me disait, je le cite, « Dans cette étape de ta vie, Brigitte, le plus important pour toi n'est pas ce que tu peux faire pour moi, mais ce que je veux faire en toi. » Avant de pouvoir le servir, nous devons nous laisser servir. Personne ne peut être instrument de libération s'il n'a pas lui-même expérimenté la libération auparavant. Avant de prêcher l'amour de Dieu, nous devons l'expérimenter personnellement. Pour pouvoir affirmer que Dieu sauve, il nous faut avoir été sauvés dans des domaines concrets de notre vie. Notre attitude alors, nous déprogrammer. L'ordinateur travaille grâce au programme qui lui permet de fonctionner, mais en même temps le conditionne. Parfois, il arrive que le programme ne soit plus suffisant et qu'il faille le remplacer par un plus puissant. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons tous établi un plan pour notre vie, mais il faut y renoncer pour nous ouvrir au Seigneur. Si nous ne nous déprogrammons pas, nous ne pourrons accueillir le plan de Dieu sur notre vie. Il y a des gens qui sont convaincus de faire déjà la volonté de Dieu, mais n'oublions pas que Saul de Tarse l'était aussi quand il persécutait l'Église de Dieu. Saul, pharisien jaloux, qui avait mis sa confiance dans la sainte loi du Sinaï, était persuadé de faire la volonté de Dieu. Il avait été instruit au pied de Gamaliel et savait parfaitement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Néanmoins, quand il rencontra personnellement le Christ ressuscité, il tomba et se rendit. Il déposa les armes dans lesquelles il avait mis sa confiance et au lieu de décider, de faire ou enseigner comme c'était son habitude, Saul demanda simplement, je le cite, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes 22:10. Lui qui connaissait parfaitement les Écritures et qui accomplissait jalousement la loi, reconnaissait qu'il ne savait plus rien faire. Il renonça à son programme à lui et s'ouvrit à ce qui était nouveau et inespéré. Il s'agissait bien d'une nouvelle naissance. Lorsque nous nous déprogrammons, nous nous ouvrons et nous nous disposons aux surprises de l'Esprit Saint. Nous programmons tous notre vie et parfois même celle des autres. Nous devons renoncer à cette tâche qui ne nous appartient pas. Il est certain que le Seigneur veut imprimer en nous son image avec le sceau de l'Esprit Saint pour que nous puissions être image du Christ. Mais avant d'imprimer quelque chose, il faut d'abord gommer tout ce qui est écrit ou tout ce qui interfère avec son plan. Prions.
Le Seigneur passe. Ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la foi qui réclame ta foi? Le Seigneur passe. Entendras-tu
voyons la deuxième lumière de l'initiation des disciples par le Christ. Il bénit le pain. Dès que Jésus eut pris le pain entre ses mains, il le bénit. La première chose que le Maître fait pour nous est de nous bénir. Le mot « bénédiction » en grec et en français est composé de deux mots « bien » et « dire ». La première chose que le Seigneur fait est de nous parler bien, en vérité. Il prononce une parole qui est vivante et efficace, qui est esprit et vie, plus coupante que l'épée à deux tranchants, qui pénètre jusque dans les profondeurs de l'âme. Au cours de cette étape, la parole de Dieu nous configure pour que nous obtenions les critères du Christ Jésus et que nous nous identifions aux mêmes valeurs. Toute parole que nous entendons modèle notre façon de penser et détermine notre façon d'être et d'agir. Notre esprit est comme une cassette vierge qui reproduira ce qu'on y a gravé. De même que les jeunes chantent les chansons de leurs idoles par cœur et essaient d'imiter leurs idoles, de même, si nous écoutons la parole de Dieu, notre esprit s'identifiera à la volonté divine et les critères du Seigneur nous apparaîtront naturels. De même que l'eau pénètre la terre et la féconde, de même la parole de Dieu va nous pénétrer jusqu'à la racine de nos décisions. Notre attitude écoutez. Si au cours de cette étape, le Seigneur se manifeste comme un maître qui nous enseigne, notre attitude principale doit être celle du disciple qui écoute pour apprendre. Je le cite. Un jour, un scribe demanda à Jésus quel était le plus grand commandement. Le maître répondit : écoute, Israël. Marc 12, 28. Le premier et le plus grand commandement n'est pas d'aimer Dieu, mais d'écouter. Si nous l'écoutons, il nous exprime son amour, nous rend amoureux et nous permet de lui répondre. Bien souvent, notre activisme et notre prière deviennent un monologue où nous parlons de Dieu, mais nous ne lui parlons pas si nous ne l'écoutons pas. N'oublions pas que le Seigneur sait déjà ce que nous allons dire avant que cela ne sorte de notre bouche. Ce qu'il a à nous dire est bien plus important. Trois choses étouffent la parole de Dieu et l'empêchent de s'enraciner et de porter du fruit en nous. Les préoccupations du monde, nous nous passionnons pour des choses transitoires et éphémères. L'amour des richesses, qui comprend la recherche exagérée des biens matériels, la concupiscence de la chair, qui est la satisfaction démesurée et parfois déréglée de tous les sens. Quand Samuel entendit une voix, le prêtre Élie lui dit que c'était Dieu qui l'appelait et qu'il devait répondre. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Malheureusement, nous disons le contraire, et je vais nous citer. Nous disons au Seigneur, « Tais-toi, Seigneur, ton serviteur parle. » Le sourd de naissance ne pourra jamais parler. Comme il n'entend pas les mots, il ne peut les prononcer. C'est la même chose dans la vie spirituelle et pastorale. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous ne pourrons pas parler en son nom. Le don d'écoute pour écouter le Seigneur est le plus important, plus que le don des langues. Il y a des gens qui décident des chemins de pastorale ou imposent de suivre un critère qu'ils ont en tête, mais pour être sûrs de ne pas rencontrer d'opposition, ils ajoutent « c'est la volonté du Seigneur ». Mais qui leur a dit que c'est le plan divin? Quand et comment ont-ils su que c'était la volonté de Dieu? La seule chose qu'ils firent pour l'imposer aux autres fut de se mettre le Seigneur dans la poche. Les pires sont ceux qui pensent que parce qu'ils ont une certaine autorité dans l'Église ou un titre, ils jouissent de l'infaillibilité et que leurs directives sont automatiquement les ordres de Dieu, comme si le Seigneur dépendait de ses serviteurs. Au lieu de demander au Seigneur ce qu'il veut, lui, ils disent ce qu'ils pensent, puis s'arrangent pour que les autres les croient et prennent cela pour la volonté céleste. En ce sens, j'aime rendre hommage à nos deux pères spirituels, Augustin Dupré-Latour et feu abbé Jean Slim, qui me disaient toujours « Brigitte, nous, pour toi, on voit cela dans ce cas, mais oublie ce que l'on a dit et questionne le Seigneur dans l'adoration et fais ce qu'il te dira. » Oh, combien la sainteté d'une telle attitude et leur effacement derrière le Seigneur sont formatrices. Notre révérend père Thomas Mehanna, notre nouveau père spirituel d'Abana, est tout à fait dans leur ligne, et nous rendons grâce à Dieu pour ses saints prêtres et moines. L'exemple le plus édifiant du véritable disciple est la très sainte Vierge Marie. Elle écoute la parole et y croit immédiatement pour pouvoir ensuite la mettre en pratique et ainsi être capable de donner cette parole au monde. Voici la troisième lumière dans l'initiation des disciples par le Christ. Il rompit le pain. Il le rompit. Jésus, après avoir pris et transformé le pain avec sa parole de bénédiction, le rompit. Le troisième aspect dans la formation du disciple consiste à être rompu. Par être rompu, nous comprenons l'étape de purification à travers laquelle le Seigneur nous consacre totalement à lui. Sans cette condition, nous ne pourrions pas être des offrandes du culte spirituel. L'apôtre Paul exprime cette nécessité à l'aide d'une idée prise dans la Pâque juive, racine de notre Eucharistie. Être des pains azim. Le pain de la Pâque est matzot, c'est-à-dire sans levain et libre de toute impureté. Ce n'est qu'avec la matza pure qu'il fut possible de célébrer la libération de l'esclavage. Dans la liturgie du Nouveau Testament, nous sommes ce pain azim qui se transforme en hostie pure et sainte et agréable à Dieu. Je cite « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azim, car notre agneau pascal, le Christ Jésus, a été immolé. » Ainsi, comme on épure l'or, nous devons être purifiés et sanctifiés pour pouvoir servir comme ministres de la Nouvelle Alliance, chacun en accord avec sa propre vocation. Cette étape consiste fondamentalement à nous dépouiller de tout ce qui nous encombre ou nous fait du mal. Souvent, nous pensons que si nous avions plus de possibilités matérielles ou de meilleures installations, nous améliorerions grandement notre travail pastoral. Néanmoins, ce qui nous empêche de porter plus de fruits, et un fruit qui demeure, ce n'est pas ce qui nous manque, mais bien plutôt ce qui nous encombre. L'égoïsme, le matérialisme, la compétence vis-à-vis des autres serviteurs, l'orgueil qui nous enfle, même spirituel. Sans compter les blessures émotionnelles et les conséquences du péché que nous traînons comme une ombre noire. Michel-Ange, le grand artiste florentin, aimait travailler enfermé pour n'être vu de personne. Il ne montrait ses œuvres qu'une fois achevées. Quand il eut fini les statues des esclaves, il y eut une grande fête à Florence, car on allait les admirer pour la première fois. Tous les nobles artistes et autorités étaient impressionnés d'une telle œuvre d'art. Aux félicitations et compliments, le génie répondit « Mais je n'ai rien fait. Quand on m'a apporté la pièce de marbre, il y avait déjà dedans cette sculpture. Je n'ai fait qu'enlever quelques morceaux qui la recouvraient. » Dieu nous a destinés à être une œuvre d'art entre ses mains. Mais auparavant, il lui faut enlever tout ce qui nous embarrasse. Notre principal problème et que nous traînons des choses qui nous empêchent d'être libres pour servir le Seigneur. Si nous résumons en une seule phrase en quoi consiste cette purification, nous dirons « avoir la pureté d'intention ». Voilà ce que ça signifie et que l'on verra la fois prochaine. Sainte semaine et bonne prière. Amin.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.